Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et avant de retrouver nos invités pour parler des difficultés des femmes journalistes à accéder au poste de direction dans les médias où elles exercent, allons d'abord à Conakry parler des obstacles qui empêchent la femme guinéenne d'obtenir plus de droits, mais surtout de bénéficier de ceux déjà acquis. Écoutons notre invité.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Fatou Baldé, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes présidente de la coalition des femmes leaders de Guinée. Sous quel signe avez-vous placé la célébration de la Journée internationale des droits des femmes ?
On s'est conformé au thème international qui a été donc donné par ONU Femmes, à savoir le leadership des femmes dans un contexte du Covid pour aller vers l'égalité et l'équité. Des activités où il fallait se regrouper n'était pas possible compte tenu de la situation sanitaire. Mais nous avons pu faire des émissions interactives au niveau des radios, au niveau des émissions de débat. On a pu sensibiliser les femmes sur leur autonomisation à travers donc le soutien des jeunes filles qui vont être à l'école et les maintenir le plus longtemps. Et ces activités de sensibilisation quand même vont continuer pendant tout le mois de mars, puisque c'est tout le mois qui est consacré.
Qu'est-ce qu'au niveau de votre ONG, vous considérez comme des avancées dans la lutte pour les droits de la femme guinéenne ?
Bon, en réalité, la Guinée a été toujours en avance par rapport aux droits qui sont consacrés. Pendant la Première République, les femmes ont eu beaucoup de possibilités et qui ont conduit à leur épanouissement. Mais malheureusement, ça n'a pas été...
Vous voulez dire sous Sékou Touré ?
Oui, sous Sékou Touré, les femmes quand même ont eu beaucoup d'avantages. Bon, concrètement, par exemple, en Guinée, on a toujours donné le droit aux filles d'aller à l'école comme les garçons. Ici, en Guinée, le mariage précoce est proscrit à travers une loi. Le code de l'enfant stipule qu'on ne peut pas marier des mineurs. C'est une avancée aussi que la loi a été votée sur la parité, même si elle n'a pas été promulguée, mais les textes disent que si le président ne promulgue pas une loi votée en 10 jours, elle rentre en application à l'État. Aussi, dans le nouveau code civil, la femme maintenant est libre d'entreprendre et de conserver ses biens, comme elle est libre de les associer à son conjoint. Tout ça, ce sont des avancées. Aussi, on a voté une loi sur la santé de la reproduction qui proscrit l'excision. Mais c'est l'application des lois qui crée des problèmes en Guinée. Et ça, ce n'est pas seulement au niveau des femmes. C'est que dans toute la ligne en Guinée, on ne respecte pas les lois. C'est ce qui fait que c'est difficile de voir l'impact de ce qui est écrit dans les textes sur la vie de... Le quotidien de la femme guinéenne.
Et ce qui conduit à la sous-représentation des femmes au niveau des postes électifs comme nominatifs.
Oui, cette sous-représentativité aussi va à l'encontre de la loi. C'est parce qu'on refuse d'appliquer la loi et qu'il n'y a pas de punition, il n'y a pas de moyen de coercition sur ce refus d'appliquer la loi qui fait qu'il y a une sous-représentativité des femmes au niveau donc, des listes qu'on présente, au niveau des décrets de nomination. Alors qu'il y a autant de femmes au niveau, par exemple, de la fonction publique que d'hommes. Mais malheureusement, quand il faut nommer, c'est toujours les hommes qui passent parce que la manière de sélectionner et de nommer ces personnes à ces postes ne répond à aucune orthodoxie.
Donc c'est vous estimez qu'il y a une volonté politique, mais qui ne va pas aussi loin que souhaitent les femmes guinéennes
en fait,
aujourd'hui.
C'est le manque de volonté politique qui fait que les textes ne sont pas observés, les lois non respectées et personne ne réagit. Et les femmes dans les partis politiques, on va trouver que peut-être elles sont moins lettrées. Mais en attendant, on a nommé ici des ministres hommes qui n'avaient pas le BEPC.
Le niveau de brevet.
Et oui. Et aujourd'hui, quand vous regardez dans l'architecture administrative, les hommes incompétents qui ont accédé à des postes de responsabilité, vraiment dans des secteurs névralgiques, vous ne pouvez pas comprendre comment cela peut se faire.
Au regard de toute cette réalité, qu'est-ce que vous considérez aujourd'hui comme principaux combats que doit mener la femme guinéenne?
Comme disait Simone Veil, qu'il suffit d'une toute petite crise politique pour que les droits des femmes soient compromis. Si vous partez de ce principe-là, dites-vous bien que il est difficile aujourd'hui dans le contexte guinéen de parler seulement des droits des femmes. La Guinée a un problème de droits dans la globalité. La Guinée est un pays où la vie humaine, les droits les plus élémentaires ne sont pas observés. Donc, vouloir que dans cet ensemble, dans ce contexte, on respecte seulement les droits des femmes, c'est une utopie. C'est pourquoi même les organisations féminines sont beaucoup plus dans les droits humains de manière transversale et avec une spécificité sur les femmes et les filles, parce que ce sont les couches les plus vulnérables de la société. Mais en Guinée, il y a un problème de droits humains dans la globalité.
La violation quasi permanente des libertés fondamentales et de droits des citoyens complique la tâche pour vous, défenseuse des droits des femmes?
Exactement. Nous n'allons jamais atteindre le respect des droits des femmes dans un cadre isolé. C'est de demander au premier responsable de ce pays d'être lui-même l'incarnation de l'exemple du respect de ses droits et du respect de ses textes. Pendant les crises politiques, on a assisté à des viols systématiques. C'est le respect d'abord des droits humains dans leur globalité pour qu'on puisse avancer vers le droit spécifique des femmes et des filles.
Fatou Baldé, merci beaucoup.
Merci, madame.
Présidente de la coalition des femmes leaders de Guinée.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Pourquoi les femmes journalistes sont-elles si peu représentées aux hautes fonctions de responsabilité dans leurs médias? Nous en débattons ce soir avec quatre invités, toutes des dames. Il s'agit de Aissatou Diamanka Beslan. Elle est écrivaine, journaliste, militante féministe et auteure du livre Le Pagne Léger. Madame Beslan, bonjour. Allô, Aissatou, vous m'entendez? Allô, je pense qu'elle nous entend, mais peut-être pas très bien. Annie Payep Lepe, bonjour.
Bonsoir, Ariane.
Bonsoir, Annie. Vous êtes secrétaire générale du Syndicat national des journalistes du Cameroun, section du littoral à Douala, et promotrice d'une télévision en ligne, Télé Assure. C'est bien cela, Annie?
Oui, c'est bien ça, Tilazou, notre télé en langue douala, c'est bien ça.
D'accord, merci Annie Payeb d'être avec nous. Bienvenue Laetitia Onona.
Oui, bonsoir.
Vous êtes réalisatrice de documentaires, notamment le dernier, Elle l'a bien cherché, diffusé sur Arte à Paris, Laetitia.
Oui, tout à fait. Merci de m'avoir invitée ce soir.
Merci à vous d'être là. Merci également à Sandrine Ochou, première vice-présidente de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire. Vous êtes également, Madame Ochou, coordonnatrice de l'organisation des femmes de médias engagées pour le développement positif à Abidjan. Bonjour, vous m'entendez?
Oui, super bien. Bonjour.
Bonjour Sandrine. Aissatou, vous m'entendez mieux maintenant?
Oui, je vous entends très bien.
Soyez la bienvenue, Aissatou. Je vais peut-être commencer avec vous, Annie Payeb Lepe, qui est au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la situation de la femme journaliste dans la plupart des médias au Cameroun aujourd'hui?
Oui, Liliane, le constat sur lequel nous partons, c'est que les femmes sont plutôt bien représentées dans les rédactions. Donc, c'est un métier, le journalisme, c'est un métier qui attire les femmes, que ce soit à la télévision, à la radio et même dans la presse écrite. Un petit tour d'horizon que nous avons fait démontre, par exemple, qu'à Mutation, l'un des premiers quotidiens privés au Cameroun, elles sont à peu près 50% au sein de la rédaction. Dans certaines rédactions, elles sont même majoritaires. À Cameroun Tribune, elles sont 24 sur 31 hommes.
Cameroun Tribune étant le quotidien à capitaux publics, le quotidien gouvernemental.
Exactement, et le plus grand quotidien, exactement. Dans la rédaction centrale à Yaoundé, elles sont 24 femmes sur 31 hommes. Donc, généralement, elles sont au moins à 40% en termes d'effectifs. Mais le problème se pose lorsqu'on commence à monter les échelons. dans les grades. Parce que, hormis le quotidien Mutation, par exemple, qui a quatre femmes chefs de service sur 6, si je prends la directrice des ressources humaines qui est une femme, le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Aucune femme éditorialiste à Cameroun Tribune, à part la DG, elle-même, Madame Marie-Claire Nana, aucune femme grand reporter, ce qui est étonnant, vu le nombre de journalistes que ce pays, que ce média a sur l'ensemble du territoire national. Et ils ont 4 chefs de service aujourd'hui, tu sais, ce qui n'est pas mal. Cameroun Tribune, Mutation, Le Messager, par exemple, n'a pas de femme éditorialiste. Une seule femme chef de service sur 3, et c'est toujours les sociétés, en fait. Donc, les rédacteurs en chef, alors là, c'est grave, elles sont très rares, les femmes rédacteurs en chef. Canada International a une femme rédactrice en chef, l'une des plus grandes chaînes de télévision privées au Cameroun. Mais les autres, c'est vraiment les hommes. Donc, c'est un peu étonnant et choquant qu'on constate qu'à la rédaction, elles sont bien représentées, mais lorsqu'il faut arriver sur les cercles de pouvoir, elles sont très peu. Sur une centaine de journaux au Cameroun, on a à peu près 4, quand je dis journaux, les médias, tous médias confondus, on a 5 femmes directrices de publication. Je prends uniquement les médias classiques, donc les journaux, les chaînes de télévision, on a que 5 femmes directrices de publication sur une centaine d'hommes. Donc c'est trop flagrant, c'est vraiment, l'écart est trop grand.
Merci beaucoup, Annie Payep Lepay. Sandrine, est-ce que c'est la même réalité en Côte d'Ivoire, très présente au bas de l'échelle, mais dès lors qu'on commence à regarder au niveau des postes de responsabilité, elles sont de moins en moins visibles?
Effectivement, c'est le même constat ici en Côte d'Ivoire. Donc déjà, même quand on prend la proportion de femmes dans les médias, par exemple, qui sont journalistes, en Côte d'Ivoire, on retrouve que 25 femmes dans les rédactions. Du coup, ça fait que pour les postes de responsabilité, les chiffres sont quasi inexistants pour les femmes. Donc, il y avait eu un rapport du PANOS, d'un confrère journaliste, qui a montré qu'il y a 43% de femmes dans les administrations. Ça, c'est depuis 2015. Et au niveau de la production, le taux tournait autour de 37%. Et pour les postes de responsabilité, quand on prend sur 10 hommes, on n'avait que 3 femmes. Donc, c'est pratiquement les mêmes réalités au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ma conférence a largement expliqué. Et comme je disais, on risque de me répéter, c'est quasiment les mêmes réalités ici.
Et je ne sais pas si Aïssatou... Merci beaucoup, Sandrine. Je ne sais pas si Aïssatou et Laetitia font des constats différents que ceux que viennent de décrire Annie et Sandrine. Aïssatou?
Oui, en fait...
Vous qui êtes en France, est-ce que c'est la même configuration?
En France, c'est encore beaucoup plus difficile, surtout pour les femmes africaines afro, enfin africaines, d'origine africaine, que ce soit des immigrés ou bien des personnes qui sont nées sur le sol français, mais qui ont du mal à trouver un poste de journaliste dans le journalisme. C'est encore beaucoup plus problématique parce que...
Excusez-moi, Aïssatou, donc si j'ai bien compris, en fait, le problème se pose déjà pour les femmes journalistes françaises qui sont peu représentées, mais il est encore plus criant lorsqu'il s'agit des femmes d'origine africaine, c'est ce que vous voulez dire?
Oui, pendant plus d'une décennie, nous nous sommes battus pour pouvoir être représentés dans les médias, que ce soit sur France 2, TF1. Si on prend par exemple l'exemple de M6, l'année dernière, ça avait beaucoup tourné. Vous voyez la photo de famille d'M6 où on voyait que Karis Diouf, seule femme africaine, seule personnalité noire, parmi d'autres européens, on voit que dans les rédactions, on trouve pas beaucoup de femmes, déjà d'hommes noirs, et plus encore de femmes noires. Ici en France, c'est très difficile de s'insérer. On se retrouve par exemple à avoir des difficultés dès la formation, parce qu'on a même un problème pour trouver un stage, parce que on a un nom de consonance étrangère. Là, c'est vraiment encore beaucoup plus difficile que sur le continent, parce qu'il y a un autre paramètre qui se met en place, c'est-à-dire l'immigration, la consonance du prénom, les origines, etc., etc.
Merci beaucoup, Aïssatou. C'est vrai que notre débat, hein, c'est davantage sur la faible représentativité des femmes aux postes importants dans leur direction, mais ce que vous soulignez n'est pas moins important. Mais je souhaite avec vous, Laetitia, qu'on reste sur notre angle du jour, l'absence des femmes, leur faible représentativité, disais-je, au niveau des postes, lorsqu'on commence à monter dans la hiérarchie des rédactions, on se rend compte qu'elles ne sont pas présentes.
Oui, elles sont moins présentes. Alors ça évolue quand même un petit peu. On voit que les rapports chaque année montrent une proportion qui augmente un peu sensiblement parce qu'il y a des collectifs de femmes journalistes comme Prenons la Une, etc., qui se mobilisent beaucoup pour que ça évolue. Mais c'est clair qu'il y a encore...
Qui a remplacé, né sous les cendres de, je crois, l'Association des femmes journalistes, dissoute en 2014.
Et voilà, donc en fait, effectivement, il y a des mouvements comme ça qui émergent et qui permettent de prendre la parole, de rendre plus visibles les femmes journalistes, de les mettre aussi, de leur permettre de monter les échelons. Mais clairement, on a un vrai problème de représentation encore. Enfin, c'est à l'échelle de la société tout entière, il n'y a pas vraiment de raison pour que le journalisme échappe à la question, en fait.
Mais est-ce qu'il y a une raison à cela? Quand vous discutez avec les consoeurs, en préparant cette émission, j'ai vu qu'il y a, pour ce qui est ici de la France, des femmes journalistes qui disent que parfois, oui, elles sont obligées d'interrompre leur carrière pour des raisons de maternité, mais est-ce que c'est la seule raison qui expliquerait cette faible représentativité des femmes à ces hautes fonctions?
Je sais pas, je pense que c'est un métier qui au début était beaucoup occupé par des hommes, donc c'est comme tous ces métiers-là où les femmes arrivent, il faut faire leur place, c'est pas toujours évident. Moi, je peux parler aussi, enfin à titre personnel, j'ai pas vraiment rencontré ce genre de difficultés, mais c'est vrai que moi j'ai pas fait carrière dans un média jusqu'à monter des échelons, j'ai pas eu de frein, je suis plutôt indépendante, donc voilà, je rencontre.
Mais on observe cela davantage dans les rédactions, elles sont employées.
Tout à fait. Je pense qu'au sein des rédactions, c'est plus compliqué. C'est un autre chemin qui doit se faire. Et voilà. Et puis, il faut combattre des vieilles représentations. Mais la place est là. Et il y a beaucoup de femmes qui prennent cette place, qui la prennent très très bien. Et voilà, je pense que c'est en évolution quand même.
Merci. Je vous propose, mesdames, de marquer une courte pause. On reviendra pour parler des causes. Qu'est-ce qui explique cette situation? Et ensuite, essayer d'examiner ensemble quelles solutions possibles pour qu'elles s'améliorent.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Comment expliquer la quasi-absence des journalistes femmes au poste de direction dans leurs divers médias? C'est le thème de notre débat du jour en ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, avec nos quatre invités. Sandrine Ochou, première vice-présidente de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire. Laetitia Onona, réalisatrice de documentaires notamment. Elle l'a bien cherché, diffusé sur Arte à Paris. Aïssatou Diamanka Beslan, écrivaine journaliste. Et Annie Payet, secrétaire général du syndicat national des journalistes du Cameroun, section littorale à Douala, à qui nous redonnons la parole. Annie Payep, vous l'avez dit en début de vos propos que votre enquête vous a permis de constater, et vous vous en êtes réjoui d'ailleurs, que les femmes sont bel et bien présentes dans les médias. Elles sont dans certains médias représentées autant que les hommes. Mais pourquoi est-ce que elles sont là, elles sont présentes, elles travaillent comme leurs collègues masculins, et finalement, à un moment donné, quand on commence à regarder les postes, elles n'y sont pas? Quel est votre diagnostic?
Alors, je vais raconter une petite anecdote que nous avons vécue lorsque j'ai travaillé dans un média. La responsable, je vais dire la fondatrice, est arrivée et nous a trouvé là, les femmes. Alors, on avait beaucoup de femmes à l'époque. On n'avait que des hommes techniciens et directrice commerciale à la rédaction, c'est des femmes, chef de service de l'information et directrice du développement, c'est des femmes. Et elle a dit à notre boss, c'est bien beau de recruter les femmes parce qu'elles travaillent et quand elles ont de la passion, elles donnent trois fois plus que vous. Mais sache que quand elles vont se marier et commencer à faire des enfants, ça va être la galère totale. Donc, j'avais trouvé ça très choquant, mais ce n'est peut-être pas aussi loin de la réalité que ça, malheureusement.
Parmi les facteurs que j'ai classés comme étant endogènes aux femmes, je pense qu'il y a cette naturelle-là, qu'à un moment donné, on commence souvent les carrières au même moment que les hommes, dans la vingtaine, et puis arrive le moment des responsabilités. La femme et l'homme n'ont pas les mêmes responsabilités au niveau de la famille. La famille, généralement, chez nous, c'est encore plus vrai en Afrique, repose très souvent sur la femme. La maison repose sur la femme, et du coup, quand elle va commencer
les à faire enfants aussi,
de manière naturelle, voilà, il lui faudra des congés de maternité, après il faudra prendre soin de la famille. Du coup, il y a de nombreuses femmes relâchent un peu à ce moment-là. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, heureusement d'ailleurs, mais dans la plupart des cas, ça se passe ainsi. Maintenant, l'autre facteur que je dirais endogène aux femmes aussi, c'est le manque de confiance en réalité. Il y a beaucoup de femmes qui grandissent avec des limites personnelles.
C'est-à-dire des plafonds de verre individuels qu'elles-mêmes parfois s'imposent.
Exactement. Se contenter du trop peu alors qu'on peut aller beaucoup plus loin juste parce qu'on se dit, voilà, je ne savais pas, dans la société, il y a peu de femmes qui travaillent, j'ai déjà la chance d'avoir un boulot, pourquoi forcer pour aller plus loin. Donc, il y a énormément de femmes qui ont ces limites naturelles-là, malheureusement. Maintenant, il y a les facteurs exogènes parce que dans la tête même de ceux qui sont en face, pour eux, de manière naturelle, par exemple, quand vous arrivez dans une rédaction, on a tendance à vous envoyer vers des sujets dits mineurs, santé.
Ce qu'on appelle un peu abusivement dans les rédactions, les chiens écrasés.
Exactement.
Les faits divers.
Exactement. Et des fois, il faut se battre. Même quand vous avez prouvé par le travail que vous pouvez interviewer un chef d'État, faire des sujets politiques, on a toujours, que vous pouvez être chef de service, on a toujours l'impression qu'il faut vous mettre de côté, qu'il faut que c'est un homme qui soit devant pour que vous soyez adjoint. Donc, je pense que l'environnement, c'est pour ça que je pense qu'il faut un plaidoyer permanent pour chaque fois donner les faits, les chiffres et attirer l'attention des décideurs sur le fait que c'est ensemble avec une société d'inclusion.
Merci, Annie.
Qui inclut les différences, qui prend en compte les différences du genre qu'on pourra faire avancer une société.
On viendra dans la dernière partie de cette émission sur les solutions. Maintenant, on essaie de poser le diagnostic. Alors, Aïssatou, ou peut-être Laetitia, dites-nous, Annie Payet parlait de facteurs liés à la famille, la vie de famille, de manque d'audace des femmes, ou certaines qui préfèrent des sujets mineurs. Est-ce que c'est toujours vrai?
Je ne sais pas, peut-être que je peux...
Oui, oui. Ah bon, peut-être Sandrine, alors, en Côte d'Ivoire. Sandrine, vous qui êtes dans une rédaction, oui.
Oui, à notre niveau ici, c'est plus dû à aux us et coutumes en fait, et puis à l'éducation de la femme. Parce que ici, les femmes sont en général très réservées, donc elles ont tendance à laisser la première place aux hommes dans certains domaines. Donc, dans les domaines comme la création, ou bien de prendre le devant. Et c'est ce qui joue très souvent au niveau de cette question-là. Elle préfère toujours donner les postes de responsabilité. Même au niveau de la presse numérique aujourd'hui, qui est le domaine dans lequel j'évolue, quand tu demandes à une femme de prendre un poste de responsabilité, tu vas voir que tout de suite, elles vont dire non, qu'elles ne peuvent pas. Quand tu leur demandes, par exemple, il faudrait qu'on fasse des sensibilisations pour que ces femmes-là puissent peut-être avoir elles-mêmes leur propre média en ligne, pour qu'elles-mêmes puissent être rédactrices en chef, automatiquement, elles rejettent ça du revers de la main, simplement parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas les aptitudes nécessaires.
Donc c'est un manque de confiance, manque d'audace.
Un réel manque de confiance en elles, en fait, que ces femmes-là développent.
Oui, d'accord. Merci beaucoup, Sandrine. Mais Laetitia, il y a pour ces femmes-là qui ont vraiment envie de poste, je parlais du cas de Le Parisien ici, 77 femmes qui ont décidé de se présenter, de présenter leur candidature au poste de rédactrice en chef. Là, ça veut dire que ce sont des femmes qui en veulent. Mais même jusque-là, oui, il y en a qui n'osent pas, qui sont réservées.
Il y a peut-être une autocensure de la part de certaines femmes qui est un petit peu culturelle, quoi. L'habitude, quasiment par habitude, de pas pousser trop loin. Mais ça, quand même, je trouve que ça.
Mais si c'est vrai, peut-être pour les femmes journalistes en Afrique, est-ce que ça l'est en France? Parce que la réalité est aussi ici, où il y a, je veux dire, on éduque les femmes, les garçons et les filles à peu près de la même façon. Il y a une égalité beaucoup plus, disons, prononcée qu'en Afrique. Mais jusque-là, la situation est la même.
Oui, il y a une égalité plus prononcée dans l'éducation, mais il y a quand même des grosses failles au niveau de l'éducation de ce côté-là. Il y a quand même, d'ailleurs, je pense pas qu'on arriverait dans un monde où les femmes sont payées moins que les hommes toujours actuellement en France si on était parfait sur l'égalité de l'éducation. Je pense que quand même il y a des grosses failles qui nous poursuivent un petit peu toute notre vie. Après, ça veut pas dire qu'on n'a pas l'audace et l'envie d'y aller. Je pense que en France, des femmes qui ont l'audace, l'envie, le talent, les compétences peuvent absolument y arriver. C'est vrai qu'il faut juste en faire encore un peu plus. Il faut toujours en faire un peu plus. Et par exemple, il y a une proportion de pigistes, donc les journalistes indépendants qui sont précaires, qui est beaucoup plus forte chez les femmes. C'est plus difficile.
Oui, ici en France d'ailleurs, et qui sont plus exposés aux abus parce que la précarité, voilà, fait que il y a des hommes responsables qui ont de l'ascendance sur ces filles et elles sont très exposées.
Absolument, elles sont exposées, elles sont plus précaires, en termes de droits sociaux aussi c'est plus compliqué, et évidemment tous les pigistes sont précaires, hommes et femmes, mais comme les femmes sont surreprésentées chez les pigistes, elles sont encore plus précaires. Donc clairement c'est
elles et moins aptes à avoir des postes en plus.
C'est possible qu'effectivement ça puisse être un frein. Après, voilà, moi je sais pas, j'ai 42 ans, quand ça fait 20 ans que je fais ce métier. J'ai vu que j'avais ma place, mais c'est vrai que dans certaines circonstances, on a toujours l'impression qu'il faut qu'on en fasse un petit peu plus pour montrer absolument.
Excusez-moi, c'est tout. Que vous en fassiez plus parce que vous êtes journaliste femme et journaliste femme et d'origine africaine. Ça fait un double obstacle, disiez-vous. Allô, Aissatou ? Allô, Aissatou ? Oui, vous êtes là, vous m'entendez ?
Oui.
Voilà, vous, c'est vous qui vous exprimiez, non, Aissatou ?
Oui, j'étais en train de parler. En fait, j'étais en train de te dire que c'est vraiment le même triple obstacle. Nous avons la barrière du prénom, la barrière de la couleur de peau. Donc ça fait des handicaps qui fait que nous n'arrivons pas au même endroit que les personnes de français de souche, et que ça fait doublement problématique dans la mesure où nous avons toujours eu des difficultés pour nous insérer ou trouver du travail, que ce soit à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, etc. Moi j'ai vu des personnes d'origine étrangère qui sont restées ici pendant plus de 10 ans sans trouver un poste dans les médias ici en France, parce que tout simplement ils sont d'origine étrangère. Et ça, peut-être les personnes qui sont sur le continent ne s'en rendent pas compte de la difficulté que nous avons ici pour nous insérer dans les grands médias. Au final, il y a des médias panafricains qui sont là. On essaye de pouvoir trouver des postes dans ces médias-là, mais la place est trop serrée. Il y a une place pour 1000 personnes, par exemple. J'exagère un peu, mais c'est le cas, c'est la réalité.
Merci, Aissatou. Pardon. Sandrine, vous, quel est votre diagnostic au-delà de ce que les unes et les autres viennent d'évoquer? Est-ce qu'il y a d'autres... Non, on me fait signe qu'on a perdu Sandrine. Peut-être je vais revenir à vous, Annie Payep Lepe. Vous avez au niveau de votre syndicat, le SNJC Section du Littoral, proposé une série de messages de sensibilisation sur les droits des femmes journalistes. You are not alone. Vous n'êtes pas seule, avec des visages de confrères hommes, de votre syndicat et bien d'autres messages. Quelle était la stratégie en faisant cette campagne?
Alors, notre campagne, les femmes ont d'abord pris la parole. Ta voix porte, your voice counts. C'était le message principal. Puis les hommes ont décidé de nous soutenir avec You are not alone. Le but pour nous, c'était d'attirer l'attention du public, de l'opinion publique, des décideurs sur la situation de la femme dans les médias. Parce qu'on s'est dit qu'on a des voix, on a la chance d'exercer un métier qui nous donne de la voix. Et pourquoi ne pas l'utiliser pour notre propre cause? alors qu'au quotidien, nous relayons les causes des autres. C'est simplement de ce constat-là que nous sommes partis. Et on s'est dit que le 8 mars est une occasion toute donnée et qu'il était peut-être temps que pour une fois d'ailleurs, je crois que c'est l'une des premières fois que cela s'est fait par les femmes des médias, de prendre la parole et de leur dire quelles sont nos frustrations, quelles sont nos attentes et quels sont nos défis au quotidien. Leur dire qu'on a envie de travailler, on a les mêmes capacités que les hommes, on a la même motivation et des fois on a juste besoin que les gens en face puissent reconnaître ce travail-là, nous juger uniquement sur la compétence et pas sur le fait qu'on est des femmes, sans préjugés, sans a priori, nous donner notre chance. C'était effectivement cela le message.
Et en quelques mots, Annie, est-ce que la participation des confrères, justement, des collègues garçons, a été spontanée ou vous a fallu, vous les femmes, les convaincre, aller chercher des arguments pour les pousser à participer à cette campagne?
Non, absolument pas. On ne les a pas convaincus. Ils se sont de manière spontanée proposés de nous accompagner dans cette campagne parce qu'on n'y avait pas pensé au début. C'était vraiment spontané. Et il faut rappeler que le SNJC Littoral, par exemple, aujourd'hui, compte 50% des femmes au bureau pour 50% d'hommes. Sur 22 membres, on a 11 femmes, 11 hommes. Et je pense que nous avons donné le ton dans ce sens-là. Et le SNJC Sud-Ouest a une majorité écrasante de femmes au bureau parce qu'elles sont aussi, elles ont estimé qu'elles ne peuvent pas être majoritaires en termes d'adhérence et ne pas refléter cette majorité au
dans
niveau
le, dans
du
le bureau.
Et elles ont pris le pouvoir en quelque sorte. Bon. Donc, essayez de dans ce cadre-là, se bat quand même pour qu'il y ait une meilleure représentativité de la femme.
Attention
donc,
à ne pas fâcher hein, les collègues, les confrères aussi. Sandrine Ochoa, on vous a retrouvé. Vous êtes là, Sandrine?
Oui, je suis là.
Oui, à votre absence, je ne sais pas si vous avez entendu votre consoeur Annie Payeb-Lepe parler de cette manque de reconnaissance. Ces femmes qui travaillent dur dans les rédactions, qui se donnent à fond, et à un moment donné, on leur dit parce que vous avez la maternité, parce que pour X raisons, vous ne pouvez pas avoir une sorte de reconnaissance à travers des postes de responsabilité. C'est difficile ça, non?
Oui, très difficile. Et là, c'est un de nos combats au niveau de la plateforme de l'approche numérique avec la cellule genre que nous avons mise en place pour pouvoir lutter surtout pour les droits de la femme, les droits de la femme dans ce domaine-là. Donc, on essaie tout bien que mal de pouvoir pallier à cela parce que nous trouvons que ce n'est pas normal. La maternité fait partie de la femme parce que si on ne fait pas des enfants, en fait, comme on peut avoir des journalistes demain, des journalistes hommes demain.
Oui.
Voilà, donc,
il faut continuer de procréer.
On travaille. Mmh.
Donc, mais vous refusez de vous résigner, vous vous dites, malgré les contraintes, malgré les obstacles, il va falloir qu'on ne se décourage pas.
Bien sûr, parce que le combat, c'est un combat déjà qui a été mené par des devancières. Et nous, à notre niveau, on continue de mener ce combat-là. Et on pense que c'est une très bonne voie. Aujourd'hui, on pense que les choses sont en train de changer, surtout à notre niveau en Côte d'Ivoire ici. Les choses sont en train de changer parce que les femmes ont compris, ou sont en train de comprendre qu'elles doivent se battre pour leurs droits. Voilà. Donc, il y a des femmes, même jusqu'à 8 mois, 9 mois de grossesse, elles vont toujours travailler. Elles vont toujours, tu les vois, en plein reportage avec les gros ventes, avec des baskets. Et ça fait plaisir pour montrer que la grossesse n'est pas seulement un handicap. La grossesse n'est pas un handicap. Et bon, voilà, ça fait plaisir.
Merci beaucoup. Sandrine, je vous propose, chère consoeur, de marquer une toute dernière pause et on reviendra parler des solutions. Comment faire en sorte que les femmes puissent être beaucoup plus présentes au poste de direction dans leur rédaction et que leur travail soit vraiment récompensé à la mesure de leur contribution. Ce sera la dernière partie de notre émission de ce soir.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Les femmes journalistes ont-elles dans leurs diverses rédactions les places et postes qu'elles méritent? Pourquoi ont-elles du mal à accéder aux postes de direction? C'est le thème de notre débat ce soir avec nos invités Aïssatou Diamanka Beslan, écrivaine journaliste et militante féministe, Annie Payeb-Lepe, secrétaire générale du syndicat national des journalistes du Cameroun, section littorale à Douala, Laetitia Onona, réalisatrice de documentaires et son Sandrine Ochou, première vice-présidente de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire. Et pour cette dernière partie, nous allons voir les solutions. Que faire pour voir plus de femmes occuper des postes de responsabilité, de haute fonction dans leurs médias? Et je commence avec vous, Aissatou. Vous nous parliez, c'est vrai que vous disiez qu'au-delà de cet aspect de faible représentativité des femmes, il y a aussi le fait que les femmes de couleur, pour ce qui est de la France, ont du mal à trouver leur place au sein des rédactions. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que les choses soient différentes?
En fait, je pense que la première chose à faire, c'est qu'il faut qu'elles se forment. Il faut vraiment avoir la formation, c'est-à-dire que si la personne elle est recalée quelque part, au moins elle sait qu'elle avait des compétences et qu'elle n'avait rien à prouver d'autre. Il faut aussi qu'elle ait un peu plus de courage malgré la couleur de leur peau, malgré leur nom d'origine étrangère, malgré tous ces freins qui les empêchent d'aller de l'avant. Il faut quand même qu'ils aient assez de avoir la confiance, avoir la conviction, avoir la détermination pour pouvoir avancer, quoi.
Mais est-ce qu'Aïssatou, vous allez terminer à votre troisième proposition? Je voulais juste vous relancer sur l'aspect de la formation, avoir confiance. Mais lorsqu'on a tout ça et que malgré tout, pour des raisons extra-professionnelles, on ne vous donne pas votre chance, finalement, ça peut être décourageant à un moment ou un autre.
Bien sûr, c'est pourquoi je voulais parler du troisième point qui est la solution. La solution maintenant, la radio, ni la télévision, ni la presse écrite ne détient le monopole de la communication. Et ça, nous qui travaillons dans les médias le savons. Internet est là, très puissant. Il faut essayer de mettre en place sa propre structure. Mettre en place son site internet, mettre en place sa télévision, mettre en place sa chaîne YouTube, mettre en place, enfin, bah, comme on dit, si le produit n'existe pas, il faut le créer. Voilà, créer leur. Il faut que les femmes africaines dans la diaspora aient assez de bagou pour créer leur propre structure step by step.
Merci beaucoup, Laetitia Onona. Sur quoi faut-il miser?
Pour faire évoluer les choses, je pense aussi.
Oui, au-delà de la formation.
Non, mais en fait, moi, je pensais aux formations, mais même dans les rédactions, en fait. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de formations qui sont pensées pour les rédactions, que ce soit sur la question du sexisme, du harcèlement, mais aussi du racisme. Et en fait, ce sont des formations qui vont aussi permettre d'ouvrir les responsables, des rédactions, les patrons, au fait d'inclure dans leur rédaction des femmes, des personnes de couleur, bref, une inclusion de toutes les minorités qui sont un petit peu moins représentées. Donc, il y a la formation des femmes elles-mêmes pour avoir l'audace et la compétence, etc. Il y a aussi la formation des patrons de presse, ceux qui décident, ceux qui embauchent, ceux qui font les.
Est-ce que ce n'est pas davantage du lobbying qu'il faut faire, Laetitia, au niveau de ces patrons de presse? Je ne sais pas, du lobbying, sensibilisation.
Oui, mais je pense qu'il ne faut rien lâcher. La sensibilisation, elle exige. Je parlais tout à l'heure des collectifs de femmes journalistes qui sont vraiment sur le pont. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas lâcher, en fait. Il faut être là, il faut être présente, il faut s'exprimer, et se faire entendre. Ça, c'est certain. Et ça finira par avancer, je pense.
Merci. Sandrine, Laetitia parlait tout à l'heure du collectif. J'ai mentionné le cas des Parisiennes, des femmes du Parisien, et qui ont été suivies par l'hebdomadaire L'Obs. Et finalement, il y a eu ce collectif qui a permis de faire bouger les choses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une piste qu'il faut explorer? Il ne faut pas explorer de ce côté-là. Mettre les femmes ensemble, qu'elles se mettent ensemble à travers l'Afrique ou je ne sais pas l'Afrique de l'Ouest pour défendre cette position de leur représentativité au niveau des postes de direction.
Bien sûr, c'est évident. C'est ce que les femmes doivent faire. Et comme je le disais tantôt, au niveau de notre plateforme de la presse numérique, c'est ce que nous essayons de faire. Mais je voulais rajouter que tout à l'heure, mes consultants ont parlé de formation. Mais je veux aussi rajouter le fait qu'il faudrait que les femmes journalistes puissent connaître leurs droits et leurs devoirs. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes journalistes qui sont dans le domaine et qui ne connaissent même pas leurs droits et leurs devoirs. Et ça, c'est vraiment une plaie pour le métier.
Mais lorsque les femmes journalistes refusent aussi de faire certains sujets politiques, économiques et préfèrent les sujets de société ou les faits divers, ça c'est aussi un aspect qu'elles-mêmes doivent corriger.
Effectivement, elles doivent corriger parce qu'aujourd'hui, comme je le disais dans mon intervention, nous sommes un peu braqués sur le fait que les hommes connaissent mieux, bien connaissent tout que les femmes en fait. Donc, c'est pour ça que la formation est importante. Il faudrait que les femmes puissent accepter de parler de politique. Il faudrait que les femmes puissent accepter de parler de sujets, par exemple le sport. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, de plus en plus, les jeunes femmes journalistes étudiantes s'intéressent à cette thématique-là. On voit de moins en moins des femmes au niveau de la mode. Et ça nous réjouit.
Merci. Merci.
Et aussi, il faudrait que nos devantrices, puissent vraiment nous impliquer parce qu'il y a une guerre de générations. Et les femmes ne sont vraiment pas soudées. Donc, c'est une plaie qu'il faudrait corriger.
Oui, un combat qu'il faut se mettre en commun pour défendre.
Voilà, il faudrait se mettre en commun pour défendre. Et puis, bon, si les portes se ferment, il faudrait que nous-mêmes nous puissions ouvrir nos portes.
Merci beaucoup.
En créant de la valeur, en créant du travail.
Annie Payep-Lépin, sur quoi il faut que les femmes travaillent pour pouvoir pousser des portes et que ce plafond de verre que parfois elles se fixent puisse sauter?
Je pense que, comme les autres l'ont dit, il faut être un travail multidimensionnel. Déjà, il faut qu'elles apprennent à revendiquer ce qu'elles estiment être leur droit, c'est-à-dire que ne pas toujours se cacher. Se syndiquer, par exemple, ici au Cameroun, le Syndicat National des Journalistes du Cameroun, qui peut mener ce genre de plaidoyer. Nous sommes d'ailleurs en train de préparer.
Mais ça ne donne pas les postes, Annie Payep-Lépé. Ce sont bien les patrons de presse qui nomment pour les presses privées.
Oui, ce sont bien les patrons de presse, même pour la presse publique. C'est vrai que le conseil d'administration, dans le public, va valider les nominations, mais c'est vers eux qu'il faut faire le plaidoyer, en fait. Mais les femmes journalistes aussi, de leur côté, doivent pouvoir dire, moi, je l'ai fait avant, pourquoi pas les autres? C'est-à-dire, je veux traiter de tels sujets, je peux le faire, et j'ai démontré que j'avais la capacité à le faire, et à chaque fois, on essaie de vous mettre de côté, parce qu'il faut que les hommes prennent le relais, soient toujours devant quand il s'agit de tel ou tel sujet. Moi, à un moment donné, j'ai dit non, j'ai occupé toutes les fonctions possibles, de chef service d'information, à directrice générale adjointe, en passant par le chef de bureau, voilà, coordinatrice digitale, j'ai occupé toutes ces fonctions, parce que je pense qu'on était au moins unanime sur le fait qu'ils avaient les capacités à occuper ces fonctions. C'est pour ça que je pense que les femmes elles-mêmes doivent travailler. Je vais dire, la prédiction de notre beau, ça ne s'est jamais réalisé parce que même quand on s'est marié, même quand on a eu des enfants, on a continué à remplir nos fonctions comme il le fallait. D'ailleurs,
la carrière ne s'arrête pas, l'ambition ne doit pas s'arrêter.
Exactement, parce que j'ai réclamé carrément, j'ai dit, mais pourquoi m'avoir fait la mission et tout, comme avant? On me dit, non, tu sais, tu as une famille. J'ai dit, mais ça n'a rien à voir. Vous m'envoyez la mission et puis je vous dis si je peux y aller ou pas, mais ce n'est pas que vous décidez dans votre coin que voilà, c'est fini, vous ne pouvez plus. Je connais une conseillère qui s'est mariée, qui présentait une grande émission dominicale sur une chaîne privée, et au lendemain de son mariage, on lui dit, le programme t'est retiré parce que tu n'auras plus le temps. Mais c'est n'importe quoi. Il faut apprendre à dire, non, j'ai... Tant que je n'ai pas dit que je ne peux plus faire cette émission, laissez-moi la faire. Je la ferai et bien. Ça n'a rien à voir. Donc, casser ce type de stéréotypes et, comme on a dit, organiser les formations à l'endroit des hommes et des décideurs. Parce que ça, c'est des missions que le SNJC peut faire parce qu'il s'agit en fait de leur montrer, et tout le monde est d'accord là-dessus, lorsque les femmes sont à des postes de responsabilité, elles ont souvent du mal à sortir le leadership qui est en elles. Mais une fois qu'elles l'ont fait, elles sont très souvent très brillantes à leur poste.
Merci beaucoup Annie Payep-Lépé de SNJC Cameroun, Laetitia Onona, réalisatrice, Sandrine Ochou, première vice-présidente de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire, et Assiatou Diamanka Beslan, écrivaine, journaliste, d'avoir participé à ce débat. Bonsoir.